Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité de ce jeudi 21 avril 2022. En France, des échanges tendus entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans le cadre du débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Nous reviendrons en début de journal sur certaines des déclarations fortes des candidats 5 ans après leur précédent affrontement télévisé. Celui-ci aura duré 2h45. En Ukraine, la ville de Mariupol serait sur le point de tomber aux mains des Russes. Les Ukrainiens implorent la communauté internationale de les aider à évacuer la population toujours sur place. Et puis en Australie, au lendemain d'un débat également, le premier débat entre Scott Morrison et Anthony Albanese, le Premier ministre est vivement critiqué pour des propos qu'il a tenus hier soir à propos des enfants handicapés. Et parmi les plus courageux d'entre vous, certains se sont peut-être levés aux aurores ce matin pour suivre en direct le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle en France, débat qui s'est terminé à l'heure australienne aux alentours de 7h du matin. Pendant 2h45, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont débattu sur de nombreux sujets, du pouvoir d'achat à l'environnement en passant par la réforme des institutions à l'Union européenne. Il a également été question, bien sûr, de la guerre en Ukraine, un sujet abordé presque dès le début de ce débat et sur lequel Emmanuel Macron s'est montré très offensif, puisqu'il est allé jusqu'à accuser Marine Le Pen d'être inféodée à la Russie et à Vladimir Poutine.
Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Je rappelle que, en droit international, on reconnaît rarement, c'est-à-dire qu'on ne le fait plus depuis la Deuxième Guerre mondiale, des territoires qui sont annexés par la force, alors même que Vladimir Poutine avait reconnu que les conditions de ce référendum en Crimée étaient les siennes. Vous l'avez fait pourquoi? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Mme Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
La candidate du Rassemblement national n'a pour sa part pas explosé en vol, comme cela était arrivé il y a 5 ans. Vers la fin du débat, elle a abordé la question de l'islamisme radical, un sujet sur lequel elle a estimé qu'Emmanuel Macron n'avait pas été assez investi. Elle a par ailleurs rappelé que si elle était élue dimanche prochain, elle interdirait le port du voile dans tous les espaces publics.
Il y a un islamisme dans notre pays dont je pense que la politique que vous avez menée contre lui n'est pas efficace et je pense qu'il faut mettre en œuvre une loi de lutte contre l'idéologie islamiste. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire, je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles sont insultées, du fait qu'elles sont mises de côté et accusées d'être impures, c'est ça, hein, je crois. Cette situation n'est pas admissible dans notre pays. Donc il faut libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public.
Alors qui des deux a remporté ce débat, à en croire un sondage Elab réalisé pour BFM TV à l'issue de celui-ci? C'est Emmanuel Macron qui a été le plus convaincant, en tout cas c'est ce qu'ont dit 59% des téléspectateurs interrogés contre 39% qui lui ont préféré Marine Le Pen. En tout cas, nous vous rappelons que le second tour, c'est donc dimanche et nous vous invitons à aller voter. Pendant ce temps, en Ukraine, Moscou serait sur le point de s'emparer du port stratégique de Marioupol. Dans le cadre de cette offensive, l'Ukraine assure que les Russes bombarderaient actuellement la Syrie Azovstal, sous laquelle des centaines de personnes sont actuellement réfugiées. Et dans un message publié sur Facebook, un officier militaire ukrainien qui se présente sous le nom de Seri Volinsky, cet homme, dans ce message, appelle les dirigeants du monde à l'aide et leur demande d'aider à évacuer les civils toujours présents sur place, ainsi que plus de 500 blessés.
This is our appeal to the world. This could be the last appeal of our lives. We are probably facing our last days, if not hours. The enemy is outnumbering us 10 to 1. They have advantage in the air, in artillery, in their forces on land, in equipment and in tanks.
Le pouvoir ukrainien a par ailleurs fait savoir qu'il était parvenu à un accord avec les Russes pour l'établissement d'un corridor sécuritaire. Un corridor le long duquel a pu se rendre Anissa El-Jabri. Elle est envoyée spéciale de RFI à Marioupol.
D'un côté, la mer d'Azov et ses vagues régulières au soleil du printemps. De l'autre, des immeubles noircis et en ruine. Au bout, à quelques centaines de mètres à peine, les premières cuves de l'usine Azovstal. Sur cette route, deux fanions rouges, c'est ici que sont censés s'arrêter les soldats ukrainiens qui acceptent de se rendre. Pas de tirs d'artillerie cet après-midi, mais des militaires partout, des tanks. Et ce message répété en boucle par haut-parleur qui résonne dans les rues dévastées. Bataillon Azov, vous avez jusqu'à 4 heures pour vous rendre. Aujourd'hui est votre dernière chance, votre unique possibilité de survivre. Posez vos armes et sortez. Aucun d'entre eux n'est sorti de l'usine. Azovstal sera leur tombe, a dit un officier. Ceux qui sont arrivés, surgissant au milieu de tas de béton et de métal, ce sont les civils qui vivaient depuis un mois et demi dans les caves en face de l'usine, épuisés sous le choc encore pour certains, avec deux sacs, parfois une cage à oiseaux. Ils ont été emmenés en bus vers un centre d'accueil et de tri sécurisé à la sortie de la ville. À 16h tapante, les frappes assourdissantes ont repris sur l'usine. Anissa El-Jabri, Marioupol, RFI.
Et en marge de ce conflit, l'armée russe a indiqué avoir effectué un test réussi d'un nouveau missile balistique intercontinental, un missile baptisé le Sarmat. Le président Vladimir Poutine a lui estimé que ce type d'arme devrait amener les puissances occidentales à réfléchir à deux fois avant de s'en prendre à la Russie. Des menaces, en tout cas, qui ne changeront pas la politique américaine à l'égard de la Russie. C'est ce qu'a indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.
They provided advance notice of this launch under its new START treaty obligations that it planned to test this missile. The Defense Department said today that we did not deem the test a threat to the United States or its allies, and the timing and the scope of Russia's missile test do not influence our approach to countering Russia's further invasion of Ukraine. So it was noticed through the proper process, and the Department of Defense has spoken to this as well.
Sur un tout autre sujet, un juge britannique vient d'approuver l'ordre d'extradition de Julian Assange, le fondateur australien de Wikileaks, vers les États-Unis, États-Unis où il encourt des poursuites pour espionnage. Après avoir publié en 2010 des milliers de câbles diplomatiques et militaires américains. Maintenant que le feu vert de la justice a été donné, c'est à la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, à qui il reste de signer cet acte d'extradition, même si il faut préciser qu'il reste pour Julian Assange la possibilité encore de faire appel de cette décision. Rappelons que l'activiste est âgé de 50 ans, il a passé 7 ans enfermé dans l'ambassade d'Équateur à Londres où il s'était réfugié. Il en a été expulsé en 2019, après quoi il a été arrêté par la police britannique qui depuis le maintient en détention. Ajoutons enfin que son pays natal, l'Australie, n'a pour sa part jamais réclamé sa libération, ni même d'ailleurs son extradition. En Australie aussi, il y a eu un débat politique hier soir, le premier dans le cadre de cette campagne pour les élections fédérales qui auront lieu le 21 mai prochain entre, d'une part, Scott Morrison, le Premier ministre sortant, et de l'autre, le travailliste Anthony Albanese. Et ce qu'il reste de ce débat, c'est une polémique suscitée par des propos du Premier ministre concernant les enfants handicapés. Au cours de l'émission, les deux leaders politiques étaient interrogés par le public et une mère de famille a ainsi pris à partie Scott Morrison pour lui faire remarquer que les allocations qu'elle reçoit du gouvernement pour l'aider à élever son fils autiste avaient été diminuée de 30%. Elle lui a donc demandé ce qu'il en serait dans un avenir proche. Une question à laquelle Scott Morrison a répondu en disant quelle chance il avait que ses enfants à lui n'étaient pas handicapés.
Jenny and I have been blessed. We've got two children that don't haven't had to go through that. And so for parents with children who are disabled, I can only try and understand your aspirations for those children. And I think that is the beauty of the National Disability Insurance Scheme.
Des propos évidemment qui n'ont pas manqué de susciter la controverse. Ils ont notamment été dénoncés par la sénatrice travailliste Cathy Gallagher, elle-même mère d'une fille qui est autiste. Elle s'est exprimée au micro de Channel 7.
And I think that again just shows a lack of connection with, you know, everyday people's lives. I mean, there's millions of us who live with children with a range of different needs, and I think to have a Prime Minister say he was blessed not to have one of those is deeply offending and deeply upsetting to those of us who have that wonderful addition in our family.
Quelques jours après l'annonce d'un pacte sécuritaire noué entre la Chine et les îles Salomon, le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, redoute que Pékin accroisse rapidement sa présence militaire dans cet archipel qui se situe à seulement 1600 km des côtes australiennes. Un accord qui, selon les travaillistes, aurait pu être évité si le gouvernement avait agi plus fermement et si l'action diplomatique avait été engagée auprès du pouvoir à Honiara. Une accusation jugée absurde par l'Australian Strategic Policy Institute. Et Peter Dutton sur Sky News a également indiqué que la diplomatie australienne, même si elle avait agi plus tôt, aurait été impuissante face aux ambitions grandissantes de la Chine dans le Pacifique.
You can expect the Chinese to do all they can now that they've got this agreement signed. As I say, President Xi looked President Obama in the eye and said that the 20 points of reclaimed islands on the South China Sea would not be militarized. Today they are militarized. They've got, you know, airstrips, they've got fuel depots, and that's the reality of the China under President Xi.
Un mot de sport maintenant, puisqu'on vient d'apprendre que les joueurs russes et biélorusses ne pourront pas participer à la prochaine édition du tournoi de tennis de Wimbledon en Grande-Bretagne au mois de juin. Une décision prise par les organisateurs de cette compétition prestigieuse en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur le sujet, on écoute les explications d'Éric Mamrut pour RFI.
En ces temps de guerre, la famille royale et le gouvernement britannique ne redoutaient qu'une seule chose, devoir remettre le trophée de Wimbledon à Daniil Medvedev le 10 juillet prochain sur le court central. Le joueur russe numéro 2 mondial, vainqueur de l'US Open en septembre dernier, aurait évidemment été l'un des favoris au titre. Cette image n'existera donc pas, a décidé la direction du tournoi anglais, le All England Club, pour qu'il serait, je cite, « inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou biélorusses ». Daniil Medvedev devra donc faire l'impasse sur le troisième grand chelem de l'année, mais aussi le huitième mondial, Andrei Rublev, Karen Khachanov ou encore Aslan Karatsev. Les femmes aussi sont concernées, notamment Anastasia Pavlyuchenkova, finaliste du dernier Roland-Garros, Daria Kazatkina, mais aussi les biélorusses Arina Sabalenka, numéro 4 au classement, ou l'ancienne numéro 1 mondial Victoria Azarenka. Les organisateurs anglais sont les premiers à prendre une telle décision dans le monde du tennis. Jusque-là, les joueurs russes et biélorusses pouvaient évoluer sur le circuit, mais sous bannière neutre, seules les équipes étant interdites de compétition. Le Kremlin n'a pas tardé à réagir en dénonçant une mesure inacceptable. Quant aux joueuses ukrainiennes, elles réclament maintenant l'exclusion totale de leurs collègues russes et biélorusses du circuit s'ils ne se positionnent pas clairement contre la guerre en Ukraine.
Et pour terminer ce bulletin d'information, un coup d'œil maintenant à la météo du jour en Australie. Grand soleil et 28 degrés à Perth, 21 à Adélaïde où le temps est nuageux ce jeudi. Des nuages également et 17 degrés seulement à Melbourne. À Sydney, quelques averses à venir. Il fait actuellement 23 degrés, 28 degrés à Brisbane et jusqu'à 36 aujourd'hui à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.